Il était une fois, dans la médiathèque d'Ampalo, Julie Battu, chercheuse en biologie cellulaire au CBI, qui est invitée par Estelle Cabriac, des Chemins Buissonniers, et accueillie par Karine Ornichenko. En piste pour les sciences, menée à bâton rompu.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à la médiathèque d'Ampalo pour discuter de l'égalité filles-garçons dans le cadre du projet Radio Égalité porté par la politique de la ville de Toulouse. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Battu qui est chercheuse en biologie cellulaire au CBI et j'aimerais pour démarrer l'émission, Julie, que vous me présentiez votre parcours et d'où vous vient cette passion pour la biologie cellulaire.
Alors bonjour Estelle et bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et donc ma passion pour la recherche est venue très tôt puisqu'en fait je me pose beaucoup de questions. Et du coup si vous vous posez des questions, vous êtes un chercheur ou une chercheuse. Et pour l'embryologie en particulier, la biologie cellulaire après, c'est fantastique l'embryologie parce qu'il y a une seule cellule, la cellule œuf, issue d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Et cette cellule, c'est la seule qui est totipotente. Elle peut tout. C'est la seule au monde qui peut tout. Elle peut tout donner, puisqu'elle va donner un organisme entier, un humain, une humaine, un poisson, je travaille sur un modèle aquatique, le poisson, une poule, tous les êtres vivants qui vous entourent, issus d'une reproduction sexuée. Donc cette cellule, elle va se multiplier, tac, 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 et une fois qu'il y aura toutes les cellules possibles, elles vont s'organiser entre elles et donner un cœur, un cerveau, des yeux, des oreilles, plein d'organes et elles vont s'assembler les unes avec les autres pour former quelque chose de fonctionnel et puis pour former par exemple un être humain qui est en train de vous parler. Julie Battu. Voilà, pardon.
Merci Julie. J'imagine que dans votre parcours de femme scientifique, ça n'a pas forcément été simple d'intégrer un milieu qui est plutôt genré masculin. Est-ce que vous avez rencontré des écueils? Comment vous avez dépassé les obstacles pour en être là où vous êtes aujourd'hui?
Alors effectivement, pour la recherche scientifique est un monde académique, comme la majorité des mondes académiques, il est très fermé et il est plutôt, pour accéder aux codes, les codes sont plutôt masculins. En biologie, on a de la chance d'avoir quand même pas mal de femmes, donc c'est un côté assez positif. Mais pour dépasser les stéréotypes, je pense qu'il faut mettre en place des stratégies qui sont de mettre en évidence les modèles féminins. Et là, c'est tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui doivent mettre à jour ces modèles féminins. Je me suis rapprochée de nombreuses associations, dont trois en particulier, les Chemins Buissonniers, qui montrent une autre voie pour montrer les femmes scientifiques, les femmes artistiques, et les deux ensemble, c'est fantastique. Il y a aussi Femmes et Sciences, donc c'est une association nationale qui permet d'œuvrer pour que les filles fassent des sciences et pour que les modèles scientifiques soient féminisés. On en a plein, donc autant les montrer, hein, et puis de très bons. Et puis, pour la dernière chose, c'est aussi de montrer qu'on peut tout faire. On peut avoir des enfants, on peut avoir une carrière scientifique. Et puis, on n'est pas défini que par son sexe ou que par son métier. On est défini par ce qu'on fait. Et donc, je pense que c'est important aussi de véhiculer ça. Et c'est une passion et c'est aussi pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous dire que c'est important que les filles fassent ce qu'elles ont envie de faire et que les garçons également.
Merci. Toujours dans cette thématique, quelles sont vos actions concrètes justement pour parler de stéréotypes et lutter contre les discriminations de genre?
Alors les actions concrètes, par exemple, on en a fait une avec les Chemins Buissonniers, c'est le cerebrum.lcb qui va sortir de terre et qui s'est remaquillé en octobre pour la fête de la science. En fait, on suit le parcours de deux enfants, Nino et Lila, donc un enfant qui va devenir un homme et une qui va devenir une femme. Et on montre que finalement, ce qui est important, c'est la plasticité cérébrale et l'entourage de ces enfants pour pouvoir finalement tout donner. Donc ce qui est important, on n'est jamais déterminé. Ce qui est important, c'est vraiment comment on apprend, ce qu'on apprend et comment on s'entoure.
Est-ce que vous auriez un message justement adressé aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que souvent on se met des freins pour leur dire que les freins n'existent pas et qu'il faut savoir enlever les chaînes.
Alors, je pense que les freins n'existent pas, mais ils existent et je pense que la première chose c'est de les voir. être conscient des stéréotypes qu'on véhicule, c'est important. C'est pour ça aussi qu'avec une autre association, les maths en scène, c'est important de dire que les mathématiques, c'est pas parce qu'on est bon en mathématiques qu'on va être nul en français. Les mathématiques, c'est pas une histoire de garçon, c'est pas une histoire de fille. Les mathématiques, c'est comme la recherche, c'est une passion. C'est comme la littérature, c'est aussi une passion. On peut être doué en tout, et il n'y a pas de problème avec ça. Et on peut être nul en tout, il n'y a aussi pas de problème avec ça. C'est important. Le message que je veux vraiment faire passer, c'est faites ce qui vous plaît. Et quand vous faites ce qui vous plaît, ben, vous devenez bon et bonne, et du coup, vous excellez, et vous pouvez accéder à des métiers qui vous plaisent. Si vous, les filles, vous avez envie de faire des maths et de l'informatique et des métiers techniques, allez-y. La NASA recrute, allez-y. Là, vous êtes peut-être jeune, donc il faut voir, mais dans quelques années.
La passion semble être quelque chose qui vous anime beaucoup, et c'est vrai que c'est un vrai moteur, notamment chez les enfants. Malgré tout, je pense que l'environnement a tendance à nous bousculer. Et des fois, on perd confiance, on a une estime de soi qui est égratignée. Alors, est-ce que vous auriez des conseils de par votre parcours pour arriver à dépasser ces montagnes ?
Je pense que l'entourage est très important et je pense que pour dépasser, on a tous et toutes perdu confiance en soi et surtout les filles. Je pense qu'on met en place des programmes de mentorat pour les filles et pour les jeunes doctorantes en thèse et pour aussi les jeunes chercheuses. On va essayer de développer pour les jeunes lycéennes et collégiennes. Je pense que tous les acteurs de la médiation, de l'enseignement, de la recherche, même tous les acteurs civils et professionnels doivent se saisir de ce problème. Et parce que c'est un problème. Je pense qu'on ne peut pas avoir que des métiers féminins ou que des métiers masculins. C'est très important d'avoir une mixité. Et je pense que quand on est en panne de confiance, je pense qu'il faut se rapprocher de ce qu'on sait faire. Et se raccrocher à vraiment à mettre en positif nos aptitudes. Et je pense qu'on en a tous et toutes. Et si vous n'en avez pas, c'est qu'on ne vous a pas montré. C'est de notre faute à nous, pas la vôtre. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut montrer. C'est à nous, et je pense que c'est vraiment important, c'est à nous, les adultes hein, ou les personnes qui entourent, de montrer aux jeunes et à ceux qui nous entourent leurs capacités. Moi, révéler, partager, c'est fantastique. L'embryon, il se révèle. Il acquiert une identité. C'est la même chose. C'est pour ça que l'embryologie me passionne aussi. Voyez. Et c'est pareil. C'est à nous, adultes, dans tous les acteurs, dans les librairies, les laboratoires, les médiathèques. C'est à nous de montrer ce en quoi vous êtes doués. Donc c'est vraiment important. Et ce que vous aimez surtout. Voir ce que vous aimez, c'est voir finalement votre future passion, votre futur métier. Donc c'est ça qui est important. Donc un manque de confiance en soi, ça arrive, on a tous, moi là je suis stressée, c'est normal, et donc le stress, la confiance, il faut essayer de faire des choses qui vous conviennent et qui vous correspondent. Voilà, ça qui est important. Si ça te plaît pas, t'y vas pas.
Merci. Donc cette année, dans le cadre du projet Radio Égalité, on a travaillé sur la mémoire du quartier. Donc je pense que la mémoire, c'est un thème qui vous parle. Est-ce que vous pourriez nous définir dans votre thématique de recherche ce qu'est pour vous la mémoire ? Et finalement, quelle mémoire, ou en tout cas, quel souvenir le plus marquant gardez-vous de votre carrière ?
Alors, dans mathématiques de recherche, nous, on travaille sur les neurones olfactifs. Donc, l'olfaction, c'est vraiment lié à la mémoire. Il y a la Madeleine de Proust. L'olfaction, c'est quelque chose qui va permettre de faciliter les apprentissages ou de coder quelque chose en mémoire et pour longtemps, pour le coup. Nous, on travaille sur l'embryon. Donc, vraiment aussi, c'est la mémoire cellulaire. Et c'est aussi quelque chose qui a des bases génétiques, donc comment une cellule va s'orienter vers une destinée, comment elle va garder en mémoire cette destinée, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, on ne le sait pas encore. Ma rencontre avec Lia Edelstein-Keschet, c'est une mathématicienne qui a écrit un livre de modèles mathématiques pour les biologistes. Et quand je l'ai vue, mes sujets de recherche n'avançaient pas beaucoup. Et un peu grâce à elle, et grâce à sa détermination, qui m'a dit « Mais non, Julie, tu peux y arriver, tu peux faire des mathématiques », alors que j'étais une biologiste. Donc c'est vraiment cette personne qui est juste fantastique, hein, vraiment, qui a été la première femme présidente d'une grosse société de mathématiques, donc qui est vraiment qui est extraordinaire. Après, c'est vrai que c'est des rencontres où j'aimerais bien citer beaucoup d'autres, donc du coup, c'est compliqué. Mais je pense que les souvenirs, c'est ça, c'est vraiment le partage, et j'en ai beaucoup. Donc c'est difficile de faire un choix, c'est toujours mettre en lumière des gens et j'aimerais tellement mettre en lumière tout le monde, c'est compliqué.
Est-ce que vous pourriez aussi, pour compléter, nous dire un petit peu comment cette passion est arrivée ? Est-ce que vous avez eu un mentor, un modèle, quelqu'un qui dans votre parcours a été inspirant comme vous pouvez l'être aujourd'hui ?
Tout à fait, Estelle. J'ai eu tous mes professeurs à l'université Paul Sabatier, donc Julian Smith, Bernard Knibiller et Maria Fernandez et beaucoup d'autres qui m'ont vraiment initiée à l'embryologie. Donc cette passion de la cellule œuf, montrer toutes ces possibilités qu'on ne voit pas forcément, hein, parce qu'on ne le sait pas. Donc je rends vraiment hommage aux enseignants. Je pense que c'est eux qui sont en première ligne pour nous montrer les choses, révéler. Et après, évidemment, ma directrice de thèse, Isabelle Néant et Marc Moreau, qui ont été fantastiques. Après, Caroline Hill, en postdoc, et Patrick Bader, avec qui je côtoie tous les jours. Donc, c'est plutôt dans mon cadre professionnel. Et après, il y en aurait tant d'autres dans le milieu associatif. Philippe Réveillon, vous, Estelle, il y a plein de monde. Nadine, pour Femmes et Sciences.
Je crois que nous avons une question dans le public.
Et est-ce que vous avez été aussi poussée par vos parents ?
Ah, ça, c'est une super question. Alors, effectivement, j'ai été poussée beaucoup par mes parents et par aussi ma sœur jumelle. Donc, j'ai une sœur jumelle qui se dépasse tous les jours dans le sport. Elle est prof de golf. Et ma mère était pionnière. Elle était anesthésiste. Elle a monté toute la médecine d'urgence en montagne au pic du Midi. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle est partie très, très tôt. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais oui, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment dépassé les frontières. Et mon père est marin. Donc, du coup, forcément, la rigueur, comment se débrouiller. Donc, vraiment, oui.
Donc, des modèles familiaux passionnés.
Oui, très engagée en tout cas. Maman a toujours été engagée pour les femmes. Et je pense qu'elle a toujours dit elle voulait faire vétérinaire. En 1968, elle n'a pas pu. Parce que pour être vétérinaire, si on était une femme, c'était compliqué. On ne pouvait pas. Parce que c'était difficile de manipuler les animaux à l'époque. Une frêle femme, c'était compliqué. Donc, elle a fait médecine. Elle a excellé. Du coup, elle nous a toujours dit de faire ce qui nous plaisait. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de véhiculer. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison.
Effectivement, que dire à ces petites filles qui n'arrivent pas à dépasser leurs modèles familiaux ?
Moi, je leur dirais de trouver leur propre modèle. C'est vrai que j'ai une empreinte très, très forte parentale, donc familiale même, je dirais. Ma grand-mère aussi était très engagée. Donc du coup, je pense que c'est aussi une histoire. Mais je leur dirais à ces jeunes filles qu'il faut vraiment faire ce qu'elles veulent et peut-être pas se laisser leurrer par ce qu'on voit en ce moment avec toutes les distractions qui sont intéressantes. Il y en a plein qui sont bien. Mais je pense qu'il faut toujours éveiller son esprit critique. Je pense que c'est la première chose, éveiller l'esprit critique, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, et vraiment éveiller l'esprit critique. Pour moi, c'est vraiment la base. Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui, validez ce que je vous dis, ça m'importe, parce qu'on n'a pas la solution. Les solutions sont multiples et pléiotropes, il y en a plusieurs. Et je pense que pour ces jeunes filles, je leur dirais ça. Je leur dirais, discute avec les personnes autour de toi, si tu n'en as pas, frappe aux portes, envoie des mails, téléphone, il y a des réseaux sociaux, tu peux y aller, Facebook, Twitter, il y a plein de scientifiques qui sont sur ces réseaux. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter, même à aller voir physiquement le laboratoire à Toulouse, à l'Université Paul Sabatier, ou ailleurs, si elles sont éloignées. Je pense que c'est important pour dépasser justement ce côté modèle familial, de sortir de, si c'est une impasse, de l'impasse. Il y a toujours une porte ouverte. Moi, je pense que c'est vraiment le message, même en sciences, où des fois, ça peut être compliqué, parce qu'on fait un doctorat, on est à Bac plus 8, et on n'a pas forcément de métier après. On ne peut pas prescrire de médicaments, toujours pas un doctorat en sciences, on n'est pas docteur. Mais on est quand même docteur. Oui, c'est paradoxal. On est docteur en sciences, et c'est vraiment valoriser le doctorat, dire à ces jeunes, et surtout ces jeunes filles qui arrêtent souvent, trop souvent après le doctorat aussi, et pour faire autre chose, parce qu'elles ont des vies privées. Je pense que c'est aussi important de leur dire qu'elles sont bonnes en sciences et qu'elles peuvent partir en stage postdoctoral à l'étranger. Des fois, elles ne le font pas pour des raisons familiales. Il faut qu'on fasse quelque chose, parce que je pense que la science a besoin d'elles.
Du coup, je vais rebondir là-dessus. J'ai l'impression que vous assumez un petit peu une forme de responsabilité du fait de votre statut. Est-ce que vous vous sentez justement responsable le fait d'être arrivée femme chercheuse? Et c'est un devoir pour vous d'être un modèle justement et de communiquer à travers tout un tas de manifestations. Est-ce que c'est une responsabilité?
C'est un très bon point. Je pense que c'est très difficile parce que la notion de modèle, c'est compliqué de se former à un modèle. Parce que pour tout le monde, un modèle, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait des choses fantastiques alors que nous, on n'est pas forcément... Mais je pense qu'en fait, si. Je pense que toutes les chercheuses et tous les chercheurs sont des modèles. Et je pense que c'est vraiment important de parler de ce qu'on fait, de notre science, qu'on travaille ces organismes modèles sur le poisson zèbre. Pourquoi? Comment? Bon, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je pense que c'est important de le dire. Et c'est aussi important de transmettre ce que finalement on nous a transmis. Et grâce à toutes ces personnes, je suis là aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi important de transmettre. On a tout ça à cœur pour que notre société évolue et qu'elle évolue dans le sens le plus divers. Évidemment qu'on veut le mieux pour tout le monde. On voudrait que tout le monde soit riche et heureux et heureuse. C'est vrai, c'est une motivation. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout le partage, la transmission et la réflexion. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que dans nos sociétés où tout va vite, il faut aussi voir que le temps, c'est intéressant. Prendre son temps, c'est ce que nous permet le Centre national de recherche scientifique et l'INSERM. Notre culture française, nos grandes agences nationales qui nous aident dans la recherche, qui embauchent, il faudra embaucher encore plus des doctorants et de doctorantes pour avoir des postes stables, pour les payer. à vie, parce que le travail qu'il faut et qu'elles font pour la recherche fondamentale, c'est nos vaccins de demain, ce sont nos médicaments de demain. Et c'est notre vie, pas qu'en biologie, c'est aussi notre culture de demain, notre histoire. C'est très important. Alors c'est vrai que tout nécessite de l'argent, mais c'est important, je parle trop.
Comment on pourrait encourager les chercheurs à faire plus de vulgarisation, puisqu'il y en a quand même très peu qui s'engagent dans ces chemins-là, alors que c'est absolument essentiel en termes de transmission, mais c'est pour l'instant peu reconnu pour la valorisation de leur carrière.
Alors, soit ça peut être dans le statut du chercheur, il y a déjà 10% de son temps de travail, et de la chercheuse, hein, qui pourrait être consacré à la valorisation, mais de plus en plus de demandes. Donc l'Agence nationale de recherche, l'ANR, favorise maintenant de plus en plus cette médiation scientifique. Et je pense que, pour répondre à votre question, moi j'encouragerais dès la formation académique des formations qui mettent en place comment s'exprimer à l'oral, comment vulgariser ton sujet de recherche, comme ma thèse en 180 secondes. Mais il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans le... Il y a des choses qui sont très difficiles à valoriser et à rendre accessibles. Et ça, c'est difficile parce qu'on met toujours en lumière peut-être la même chose. Et ça fait un biais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faut que tout soit valorisé, mais est-ce que tout est valorisable à l'oral ? Est-ce que tout le monde pourrait accéder à cette culture ? Je pense que ça aussi, c'est compliqué, parce que du coup, il faudrait relever le niveau de tout le monde en sciences, enfin, tous les domaines, quoi. Donc, il faut aussi réfléchir à ça, et à réfléchir à comment on pourrait accroître notre connaissance collective pour qu'on puisse accéder à cette information, et pas à une vulgarisation basse. Et ça, il faut faire aussi attention. Et c'est important de l'avoir en tête. Et là, c'est là où il y a des organismes et des associations qui font un travail très, très important. Et je pense que travailler main dans la main, chercheurs, chercheuses, avec ce type d'associations comme par exemple Femmes et Sciences, les Chemins Buissonniers, les Matins Seine, enfin il y en a plein, il y a plein d'associations fantastiques. Je pense que travailler main dans la main avec ces associations, donc affilier les organismes de recherche, les laboratoires, avec 2-3 associations, ça serait intéressant. Travailler vraiment main dans la main, je pense que ça serait une solution. Donc, associations, villes, il pourrait y avoir aussi tous les acteurs de la médiation locale et laboratoires. Ça serait vraiment intéressant. Je pense que c'est une réflexion à avoir.
Pour rebondir là-dessus, on se trouve dans une médiathèque qui est un lieu de culture et de transmission. Est-ce qu'il ne serait pas justement nécessaire de développer des outils écrits de vulgarisation scientifique ? Ça se développe, notamment des ouvrages pour enfants qui sont de qualité maintenant. Il y a un long travail à faire. Comment on pourrait justement développer ces outils dans les médiathèques pour que les gens n'aient plus quelque part aussi cette peur de la science ? C'est vrai que les événements récents, avec ce qui s'est passé, on a une certaine crainte maintenant de la science, on a une grande défiance en fait de la science. Donc comment les médiathèques pourraient travailler à travers des ouvrages ou des événements pour réconcilier le citoyen avec la recherche.
Estelle, je pense que les solutions sont faciles aussi. Chaque chercheur ou chercheuse publie, donc fait des communications scientifiques dans des ouvrages. À chaque publication, la chercheuse ou le chercheur pourrait être invité dans un endroit, dans une médiathèque, comme quand un écrivain ou une écrivaine écrit son livre. Il fait la pub de son livre, ou du coup, il fait un résumé. Pareil, il pourrait venir dans des médiathèques, dans des endroits. Pour les enfants, je pense qu'il faudrait un côté aussi, encore une fois, avec des acteurs de la médiation scientifique pour pouvoir s'associer et pouvoir... Donc ça, c'est un travail qui nécessite vraiment à plus long terme. Et à l'écrit, donc ça encore, c'est à l'oral, et à l'écrit, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir des outils qui permettent non seulement d'éveiller la curiosité des enfants, mais également de montrer le travail, le parcours de la recherche qui est long. Donc il ne faut pas oublier ça. Je pense que ce que je veux dire ici, c'est que le chercheur et la chercheuse, souvent, ou l'ingénieur, la technicienne, souvent ça ne marche pas la science, d'accord ? Donc on ne va pas venir crier quelque chose, puisque ça ne marche pas, d'accord ? Mais on n'est pas payé à rien faire, parce qu'on teste des hypothèses. On teste, et des fois, ben, on teste, ça ne marche pas. Mais je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Il n'y a pas que de la réussite. Ben non. Des fois, l'hypothèse qu'on a, elle est fausse. Et on valide qu'elle n'est pas bonne. Mais ça, c'est un résultat. Et ça, il faudrait aussi le valoriser. Et dire, ben oui, ton résultat, bon, ben, il montre que ça, c'est pas la bonne hypothèse. Ben, tu repars, tu reprends une autre hypothèse. Quand tu as loupé le train, tu en prends un autre. Ben, c'est pareil. Pourtant, tu as fait tout le trajet, ben, tu l'as loupé. Tu en prends un autre, c'était pas le bon. C'est pas arrivé là où il fallait. Pourtant, tu as fait un trajet. Le trajet était beau. Tu as rencontré des gens. Je pense que c'est important.
Pardon. Du coup, vous venez de répondre à une question d'un petit garçon, Elio de 6 ans, qui se demandait si quand on était chercheur, on trouvait toujours. Donc, vous venez de nous donner la réponse. Du coup, Karine, petite question, justement, comment vous, dans votre métier quotidien de médiathécaire, vous communiquez la science ? Quels sont les outils que vous utilisez pour sensibiliser le jeune public à la connaissance scientifique ?
Alors justement, ici à la médiathèque d'Ampalo, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la culture scientifique, parce que j'estime que ça fait partie de la culture générale. Et du coup, on a développé un club science pour les enfants à partir de 8 ans et les adolescents. On se réunit un mercredi par mois et on fait des sciences de manière ludique, avec des petites expériences. Et justement, on invite tous les chercheurs qui le souhaitent à venir animer une séance, venir transmettre leur passion. Donc Julie, si vous voulez venir, vous serez la bienvenue.
Avec plaisir, je trouve que c'est
voilà,
une très bonne
surtout
idée.
Sur la biologie, on n'en a pas beaucoup, donc c'est très très bien. Les enfants sont passionnés, ils ont plein de questions. Ils adorent découvrir les choses et ils connaissent énormément de domaines et de références. Enfin, des fois, ils nous scotchent vraiment. Donc c'est important. Enfin, ici, dans cette médiathèque, c'est notre marque de fabrique, justement, c'est la science. Et on le développe de plus en plus. Et donc, on a un fonds avec des livres adaptés qu'on développe. Il y en a quelques-uns, là. Et je suis responsable de la section jeunesse et j'achète énormément de livres de science, aussi bien des documentaires que des fictions qui traitent de la science.
Karine, je trouve ça fantastique. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui viennent le mercredi.
Ça dépend de quelle science on aborde. C'est-à-dire qu'il y a des sciences qui les intéressent plus que d'autres. La chimie, par exemple, malheureusement, pour l'instant, ils n'accrochent pas trop. Ah. Mais tout ce qui est sur le spatial et l'astronomie, c'est toujours plein. On a toujours une liste d'attente. Là, on reçoit un astronaute. Philippe Perrin vient animer la séance le 9 juin. Donc là, c'est plein. Voilà.
D'accord. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes filles et de petits garçons, c'est à peu près mixte hein, ou...
Oui, c'est à peu près mixte.
Ah, c'est bien.
J'ai à peu près autant de filles que de garçons, oui. Parce qu'il est à Toulouse et il a trouvé l'idée de Club Science fabuleuse, donc il est content de venir.
Oui, c'est vraiment intéressant. Ça serait bien, oui, moi je viendrai avec plaisir.
Ah, ben...
Vous ferez des doctorantes ou des doctorants du laboratoire. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une mixité aussi d'âge et de genre quand on s'adresse à des jeunes. Donc voilà. J'essaie toujours de mixer.
Et un des buts de ce club, c'est déjà de faire une mixité entre les jeunes du quartier et des quartiers limitrophes. De les sortir un peu des jeux vidéo et de leur montrer qu'il y a des choses qui peuvent les intéresser. C'est pour ça qu'on veut aborder beaucoup de sciences. Parce qu'ils ont souvent une image de la science, c'est les maths. Et dans les maths, on n'accroche pas forcément.
Non.
Mais si on aborde la physique, la biologie, l'astronomie, n'importe, de manière ludique et montrer que pour les bases, c'est accessible à tout le monde et que si on n'emploie pas des termes trop compliqués, ben... C'est facile à comprendre et que du coup, les filles comme les garçons, on peut se mettre ensemble pour essayer de comprendre, pour essayer de découvrir des choses. Ça marche très très bien, et même avec les différences d'âge. Les grands expliquent aux petits.
Tout à fait, c'est de la transmission, c'est parfait, oui. C'est très intéressant. C'est
voilà.
Et là, je vois que vous parlez beaucoup de sciences dures. Est-ce que vous faites aussi des actions en sciences humaines et sociales, justement pour avoir des problèmes de sociologie, des problèmes, comment travaille un architecte, comment travaille un historien? Est-ce que vous travaillez aussi les sciences humaines et sociales?
Alors, les sciences humaines sont déjà plus naturellement abordées dans les bibliothèques, au niveau des fonds, mais même au niveau des rencontres. Avec les enfants, pour l'instant, non. Ici, à Ampalo, on est plutôt sur les sciences dures, parce que aussi il y a le problème du fait qu'il y a plus les filles qui viennent en bibliothèque, parce que stéréotypement, elles sont plus marquées lecture,
ça protège,
littérature... Ouais. Donc c'est un lieu pour les filles et d'ouvrir sur les sciences. Quelque part, on dit aux garçons, oui, pour les stéréotypes. Mais justement, ensuite, notre rôle, c'est de casser ces stéréotypes une fois qu'ils sont rentrés. Voilà, de casser ces stéréotypes et de dire aux garçons, oui, vous pouvez lire. Et aux filles, oui, vous pouvez faire des sciences. C'est pareil.
Et tu sais, un architecte ou une architecte, ça va très bien avec une biologiste ou un biologiste, puisque l'architecte, il va construire sa maison et la biologiste, elle va essayer de comprendre, ou le biologiste, il va essayer de comprendre. Donc, ça va super bien ensemble. Je pense que les sciences sociales et les sciences en général, ça marche super bien ensemble.
L'année dernière, on a eu une association qui nous a fait faire une ville en papier.
Oh, voilà.
Et elle passait dans toutes les bibliothèques, ça a super bien marché. Chacun pliait des papiers pour faire des petits immeubles et à la fin, ils ont mis sur une grande plaque et ça faisait
Mais moi, j'aurais pu te faire les organismes modèles, tu vois, un petit poisson, voilà. Un petit xénope, c'est un petit crapaud, une petite mouche, un petit vers élégance, tu vois, une petite souris.
Bon, ouais. Tu vois. Oui, oui.
Mais... Enfin, ou quelqu'un d'autre, moi, je te dis.
pour terminer sur ta remarque, donc vous avez précisé que vous travaillez donc avec les chemins buissonniers, donc ils travaillent à mélanger justement les arts et les sciences. Donc je sens que vous avez une approche assez transdisciplinaire des domaines. C'est vrai que finalement, quand on fait chercheur, on utilise l'anglais, donc on fait des langues. On utilise des maths pour faire des modèles. Donc finalement, on est polycompétent dans plusieurs disciplines, même si on a une spécialité. Donc j'ai l'impression que voilà, ce côté collaboration vous plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, je pense que la pluridisciplinarité, c'est l'essence même du biologiste ou de la biologiste. C'est important, quand on fait de la biologie, on fait de la physique, on fait des mathématiques, on fait beaucoup d'informatique aussi. Donc si vous aimez jouer aux jeux vidéo, je sais que les jeunes filles, les jeunes garçons, ils adorent les jeux vidéo, vous aimerez coder et vous adorerez faire de l'informatique ou faire de la biologie ou de la chimie ou même de l'ingénierie. Le côté pluridisciplinaire, je pense que c'est important, et le côté transversal, je pense que c'est ça aussi à transmettre. Et apprendre tout le temps, ça c'est passionnant. Vous vous ennuierez jamais. En recherche, on s'ennuie jamais, n'importe laquelle. Donc la recherche, c'est vraiment pour les personnes curieuses et ça devient une passion. Donc même si ça n'est pas au début, en fait, on se pique au jeu et ça devient une passion. C'est fantastique.
Donc merci à tous pour votre présence et pour la pertinence de vos réponses. Pour conclure, je vais vous demander, Julie, le mot de la fin. Je vais vous demander de vous adresser aux jeunes qui sont les chercheurs de demain et qu'est-ce que vous voudriez leur dire justement.
Alors ça, c'est pas facile. Donc pour le mot de la fin, je vais essayer d'être très concise. Et je dirais aux jeunes qui nous écoutent, sortez, regardez et surtout faites. Hein. Faites par vous-même. Et la recherche, c'est fait pour vous.
Merci beaucoup. Je remercie la médiathèque Ampalo de nous avoir accueillis.
Oui, merci.
Je remercie également les politiques de la ville qui financent ce programme. Je remercie Radisound qui porte le projet. Je remercie l'école Léo Lagrange qui accueille le programme Lumière sur Ampalo.
Merci à tous et à toutes. Enregistrement avec le plateau radio mobile du Radisound. Musique sous licence libre, Angelo par Hicham Chaibi. Projet En piste pour les sciences, dans le cadre de Lumière pour Toulouse en Palo, par les chemins buissonniers, avec le CGET et la région Occitanie. Montage et réalisation, Claire Bigeot pour le Radisound.